Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, vous le savez, sans doute, nous sommes en pleine période de collecte des parrainages. À ce jour, le Conseil constitutionnel a enregistré pour ma candidature 201 parrainages. Alors je peux dire que c'est en bonne voie. Si les parrainages continuent d'arriver, hein, au même rythme, eh bien je serai candidate. Évidemment, je resterai une petite candidate aux yeux des médias. Mis à part les 15 derniers jours où il existe une égalité de temps de parole, les grands médias vont continuer d'organiser deux campagnes parallèles. Vous savez, une campagne pour les grands candidats et puis une autre pour les petits avec quelques minutes d'interview par-ci par-là. C'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et sur le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe d'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Autant dire que chaque chaîne peut faire à peu près ce qu'elle veut. Les multimilliardaires, comme Bolloré, Bouygues ou Drahi, qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer une campagne sur mesure. Et ils peuvent décider quel candidat aura droit ou pas à la parole. Et je vous garantis, ce n'est pas mieux pour les télés et pour les radios publiques. Alors oui, tout le système médiatique est bien verrouillé. Mais il ne faut pas s'en étonner. Les travailleurs qui manifestent ou sont en grève ne sont pas mieux traités. Parce que jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est réellement dans le système et qui ne l'est pas. Alors d'un certain côté, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage. Nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste. Et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe, à cette élection présidentielle, je ne joue pas pour autant le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas gérer ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience et à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Dans ces élections, nous pensons que nous pouvons faire avancer ce combat. Et c'est pourquoi j'appelle aujourd'hui les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. J'appelle les travailleurs dans cette élection à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et à un vote de combativité ouvrière. Alors les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Et cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon inattendue. C'est le cas de Fillon, choisi pour éliminer Sarkozy. C'est le cas de Hamon, qui a sorti Valls. Et c'est aussi le cas de Macron, qui de bulle médiatique est devenu aujourd'hui le favori. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien on a droit à des rebondissements, avec désistements, ralliements, tractation d'appareils, division et démêlée judiciaire, qui rajoute, il faut le dire, pas mal de piquants. Bon, vous avez sans doute suivi le dernier rebondissement du feuilleton Fillon, aujourd'hui. Et bien, pour la première fois, je pense, nous allons avoir un candidat à la présidentielle mis en examen. Vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui. Fillon s'offusque, hein, donc de ses poursuites, et il parle d'acharnement de la justice et même de complot politique. Mais qui parle toujours de tolérance zéro pour les délinquants ? Qui a condamné, avant même que la justice s'en mêle, les salariés d'Air France dans l'affaire de la chemise ? Alors oui, Fillon a été pris la main dans le sac, alors ne boudons pas notre plaisir de le voir patauger aujourd'hui dans toutes ces affaires. Alors oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, ses hommes politiques mis en examen, a de quoi surprendre. Mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique en bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité tous ceux qui ont gouverné depuis des décennies. Et elle a fini par avoir raison du ronron de l'alternance gauche-droite. Alors, c'est vrai qu'il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Parce que, quelles que soient les péripéties politiciennes, le grand capital imposera sa politique. Et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds, parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont tous des serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Fillon, on finit par en oublier le programme, mais quand même, il est le porte-parole par excellence du grand patronat. Hein, il a repris quasiment en intégralité le programme du MEDEF, avec la suppression des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais je vous le rappelle, Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes. C'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres. Oui, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron ? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande, avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'ISF, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre côté, la suppression de postes de fonctionnaires, 120 000 fonctionnaires, l'augmentation de la CSG, 15 milliards de moins sur l'assurance maladie, 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à Le Pen, eh bien, elle prévoit elle aussi des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant par exemple la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais où veut-elle prendre l'argent ? Sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut en réalité s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce, ou encore à des travailleurs, parfois ici depuis 5 ou 10 ans, qui font tourner les chantiers, nettoient les bureaux et les trottoirs, ou travaillent dans les cuisines des grands restaurants. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et les plus pauvres, à condition bien sûr qu'ils soient français. Parce que Le Pen, c'est aussi une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas avoir à dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Alors oui, Le Pen, c'est bien la dernière roue de secours de la bourgeoisie. À gauche, Hamon veut faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022. Parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, et ce n'est pas seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Et il n'y a vraiment que chez les bourgeois qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Alors oui, nous, ce que nous revendiquons, c'est un travail et un salaire pour tous. Et puis, position significative, Hamon évoque la réaffectation et le conditionnement du CICE. Car, dit-il, ces 41 milliards ont été mal dépensés. Mais il ne demande pas aux entreprises qui ont empoché l'argent de rembourser ou de rendre des comptes. Ce serait pourtant quelque chose de logique. Quand il y a eu erreur sur la marchandise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande à être remboursé. Alors Hamon, cela, il ne l'imagine pas une seconde, parce que justement, il ne veut rien imposer au grand patronat. Il ne veut pas le contraindre à quoi que ce soit, et surtout pas à payer. Eh bien, en cela, il est le digne héritier du Parti Socialiste, toujours à plat ventre pour servir les riches. Aujourd'hui, les Macron, Fillon, Le Pen, Hamon s'opposent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux, mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors, il faudrait les amadouer, les bichonner. C'est pour cela qu'ils promettent tous encore de nouveaux cadeaux au patronat. Et puis tous considèrent que notre sort dépend donc des capitalistes et de leur réussite. Or, bien sûr, ils ne les appellent pas comme cela. Ils noient le poisson en parlant des entreprises, des grands groupes, en omettant qu'ils appartiennent à des grands actionnaires qui en tirent leur fortune. Au nom de l'intérêt des entreprises, c'est-à-dire des capitalistes, eh bien, il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire leurs quatre volontés. Il faut toujours les servir, leur dérouler le tapis rouge et les laisser faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Eh bien, moi, je suis candidate pour dire exactement l'inverse. Les forces vives du pays, c'est nous. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnauds, sans les travailleurs des hôtels et les salariés des restaurants de luxe. Imaginez-les sans conducteur de train, sans pilote d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris ces produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes d'une minorité capitaliste. Et si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui veulent voter pour le Front National, eh bien, il faut mettre en avant un programme correspondant aux intérêts des travailleurs. Il faut être présent dans cette campagne et il faut que ce programme soit porté par le maximum de voix. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Alors la première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices. Regardez Peugeot Citroën. Peugeot Citroën a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices. Rien que sur 2016, ils annoncent 2,15 milliards de bénéfices. Et ils ont supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore. Et c'est pareil dans le secteur bancaire, c'est pareil dans l'assurance, c'est pareil dans tous les grands groupes capitalistes. Ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent et au final, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs de plus. Alors oui, il faut commencer par stopper tous ces grands groupes qui sont aussi les plus grands fabricants de chômeurs. Et puis parallèlement, il faut créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut aussi rajouter le temps de transport, sont devenus de plus en plus délirants. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce qui se fait quasiment dans toutes les entreprises avec ces fameux plans de compétitivité qui concentrent le travail sur de moins en moins de salariés, qui leur imposent de faire des samedis travaillés obligatoires et qui réduisent de plus en plus de salariés au chômage et à la misère. Et puis, regardez aussi les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, d'aides-soignantes dans les hôpitaux? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? En réalité, il y a beaucoup de besoins à satisfaire et il y a autant d'emplois à créer pour les satisfaire. Alors, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus, parce que le chômage est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, mais aussi il marginalise. Il pousse à l'individualisme. Il pousse à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, la priorité, c'est un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut bien sûr augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée, donc, nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Et pourquoi? Parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés des millions de femmes et d'hommes tout simplement à se loger, à se soigner, à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent. Eh bien, je suis candidate, au contraire, pour mettre en avant ces difficultés et pour qu'on trouve des solutions. Alors oui, bien sûr, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement. Et parfois davantage, 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, bien sûr, c'est encore plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, je l'ai dit, ils doivent être eux aussi transformés en salaire parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Et ces 1 800 euros nets par mois ne sont en réalité qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 150 euros net, était à 1 000 euros. Cela fait donc une augmentation de 15% en 10 ans. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG en 10 ans ? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros sur tous les salaires. Et pour que ce soit durable, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et taxes, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance pour voir que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et au besoin sur leur fortune qui a été accumulée au détriment de générations de travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien, la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple du groupe Vivarte. Vous savez que l'enseigne André et Naf Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures ont fermé des dizaines de magasins et que 2000 emplois sont sur la sellette aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui a tué ce groupe Vivarte ? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin il y est payé 1 400 euros net et tous les autres salariés sont autour du SMIC. Alors non, ce qui a tué Vivarte, ce sont les fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui l'ont forcé à emprunter de l'argent. Et auprès de qui, s'il vous plaît ? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds, à un taux d'intérêt de 11%, de 12%. Alors oui, si les salariés du groupe Vivarte avaient connu toutes ces manœuvres financières, eh bien, ils auraient pu davantage anticiper. Ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et pour se défendre. De fait, les salariés savent tout de ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Quand je parle d'assistante, là, je parle de vraie assistante, pas d'un emploi fictif, bien sûr, parce que cette assistante-là, eh bien, c'est elle qui prépare ce courrier, c'est elle qui le tape, c'est elle qui l'envoie. Alors oui, collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, eh bien les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Et les patrons le savent. Et ils le craignent d'ailleurs. C'est pour cela qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut revendiquer de supprimer ce secret des affaires. Et cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs. en nous donnant de nouvelles armes, parce qu'il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative même pour imposer leurs intérêts. Et alors, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et on mesurerait aussi qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur toute l'économie. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical, parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées, dans le combat politique. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, et en permanence contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont les travailleurs qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire un parti, ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas la même signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 300 €, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin, très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? parce que Mélenchon se veut responsable. Parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. C'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement, vous vous souvenez, du discours du Bourget. Le problème, c'est de dire si l'on est prêt ou pas à la renverser. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Dupont-Aignan et même Le Pen, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, quand on appartient au monde du travail, eh ben on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France ou dans une 5e ou une 6e République ou à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études ? En fonction de ses envies, de ses passions ? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Alors, parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Et puis, c'est aussi une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie. Alors non, laissons ces mots d'ordre de la souveraineté ou de la France aux partisans de la bourgeoisie. Et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète, émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas l'œuvre d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, et parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et son mouvement, qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, notre campagne nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Cette année, nous fêtons le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas et en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisée pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, Le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, plus important sans doute, il a mis fin à la participation de son pays, à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus en déformant, en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Ils sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques. Car il en va du climat et de l'environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir ils sont bien incapables d'empêcher les catastrophes annoncées. Pour la simple et bonne raison que ce sont les grands groupes capitalistes qui ont toujours le dernier mot. Ce sont leurs décisions d'investissement qui s'imposent. Tant que l'on accepte la mainmise des capitalistes sur l'économie, on peut discourir sur la sauvegarde de la mer ou sur les énergies renouvelables. On parlera pour ne rien dire. Regardez, les États se sont engagés à réduire les émissions de carbone, mais en refusant d'imposer des mesures contraignantes aux industriels. Alors ils ont mis en place un marché des droits à polluer que peuvent s'échanger aujourd'hui les capitalistes. Les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à enlever les leviers de commande de l'économie aux groupes privés, l'urgence qu'il y a à supprimer le secret industriel et à organiser l'économie de façon rationnelle, planifiée, de sorte qu'elle réponde aux besoins du plus grand nombre tout en préservant l'environnement. Et puis, le capitalisme pousse aussi toute la société à la déchéance morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait le lit de la délinquance et aussi de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements et du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Et sur cette question des frontières, bien, regardez comment les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, nous dit-il, de plus en plus hautes, et de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot, les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions, et l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards, et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, en réalité, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes, et ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer à tous un emploi ou qu'on ne peut pas espérer partir à la retraite à 60 ans. En tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère. C'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons. Et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux. Rien à gagner à la compétition économique entre les peuples. Rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toute religion, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors oui, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien les travailleurs représente la seule force sociale capable de construire une société de justice débarrassée des classes sociales, du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers, de capitalistes ? Bah, sûrement pas. De femmes et d'hommes qui cherchent du boulot, mais beaucoup aussi qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, bien sûr, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction, la classe ouvrière. Il y avait encore beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les usines, dans les bureaux. Eh bien, il faut que cette classe sociale s'exprime aussi sur la scène politique. Encore une fois, on nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Eh bien, dans cette élection, c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président de la République qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de vie et de travail, il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts et ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Alors il ne faut pas recommencer avec un autre. Et croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire pour essayer de se protéger est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec les luttes puissantes. Quant à s'abstenir, bien ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre, et puis c'est déserter. Si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, et quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle ou individuelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, il y a plusieurs centaines de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Et ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions et c'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées, ces idées, parmi les nôtres, est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles, et vous l'avez compris, pour que ce soit une bonne campagne, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne. Pour finir, un petit effort de projection dans 2 mois. Non, un peu plus, en mai. On va quand même attendre le deuxième tour. En mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Eh bien, donc au lendemain de l'élection, eh bien, nous irons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son travail. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura à changer pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener.